Qui a dit que le livre était mort ? Certainement pas les élèves de CM2 de l'école de Riom de la classe de Madame Sandrine Dubos. Le jeudi 19 octobre, il recevait Christian Grenier, auteur de livres pour enfants comme Les Robinsons de la Galaxie et Virus Live ou La mort des livres. Christian Grenier nous parle des livres, de ceux qu'il a écrits, de ceux des autres, de ceux qu'il lit et qu'il est en train de lire. Lecteur passionné et auteur passionnant, il nous donne envie de lire.
Bonjour Monsieur Grenier, nous sommes heureux de vous accueillir dans notre classe. Nous avons lu plusieurs de vos romans, Virus Livre, 3 ou La mort des livres, Les Robinsons de la Galaxie, Le passager de la comète et Nous attaquons la série des logiciels.
Comment faites-vous pour intituler vos romans ?
Comment je vous trouve le titre du roman ?
Oui.
C'est le titre qui te pose problème. Moi aussi, il me pose parfois problème parce que dans mon esprit, l'important, ce n'est pas le titre, c'est l'histoire. C'est les personnages, c'est ce qui se passe, c'est le fond du récit. Pour moi, c'est ça qui est important, le nœud du récit. Une histoire, c'est avant tout un problème. Et le problème, à la fin de l'histoire, doit être en partie résolu. Et il faut que le lecteur se pose des questions et que l'histoire forme un tout. Ça, c'est mon problème. Après, il y a le titre. Parfois, le titre apparaît en cours de récit. Tout à l'heure, j'ai évoqué, rappelez-vous, Avec un peu d'amour et beaucoup de chocolat. Or, ce titre m'est venu à l'esprit après l'écriture du livre. Bizarrement, le livre portait déjà un titre, c'était Le train des futurs d'Alice, et ce titre était long, était bizarre, ne me plaisait pas tellement, et du coup, le roman qui était écrit est devenu Avec un peu d'amour et beaucoup de chocolat. Donc, le titre a changé. Le titre n'a pas changé en cours d'écriture, le titre a changé après l'écriture. Mais c'est mon titre. Ou plutôt, c'est le titre qui m'a été suggéré par hasard à la suite d'une exclamation d'une de mes petites filles pour la dégustation d'une mousse au chocolat à Noël. Tu te rends compte, hein, comment on trouve les titres, hein. Alors parfois, le titre s'impose tout de suite. Quand j'ai écrit « L'ordinateur », je savais que mon enquêtrice allait être confrontée à des victimes qui mouraient devant leur ordinateur. Je savais que c'était un ordinateur d'un nouveau modèle. Et je savais que les journalistes allaient se précipiter sur cette série de morts mystérieuses et inexpliquées, que la presse allait croire, ce qui est faux, que le coupable était l'ordinateur et que du coup ils allaient baptiser cette affaire l'ordinateur. Et le titre est resté et l'éditeur l'a accepté. Mais parfois, et c'est encore un autre cas de figure, l'éditeur me dit que l'histoire il l'apprend mais le titre ne lui plaît pas. Et donc, je suis invité à changer de titre et à imaginer un autre titre. Parfois, c'est beaucoup plus rare, et dans ce cas-là, je me fâche avec l'éditeur. L'éditeur change le titre de lui-même et ne me prévient même pas. Et met sous presse un livre avec un titre qui ne m'appartient pas. Je précise que c'était arrivé deux fois dans ma vie quand même. Fallait le faire. Et là, j'étais pas content. Parce que un livre, moi, je porte en moi l'histoire. Le titre, je veux bien le changer, mais j'aimerais que ce soit un titre que j'ai trouvé, que je valide, comme on dit. Et il est arrivé à deux reprises que, de façon un peu stupéfiante et anormale, l'éditeur se permette d'inventer un titre et de l'imposer sans même que je sois d'accord et sans qu'il me prévienne. Et je trouve ça un peu cavalier, parce que les auteurs ont peu de pouvoir. C'est l'éditeur qui a le pouvoir de publier un bouquin. Mais le seul pouvoir de l'auteur, c'est d'être responsable de tout le texte, de la virgule, du mot, des phrases, de tout ce qu'il écrit. Je revendique, moi, mon pouvoir qui est d'être le responsable de tout ce que j'écris. J'en porte la responsabilité. Mais si l'éditeur change de titre et ne me prévient pas, là, je n'en porte pas la responsabilité. Et parfois, je suis très mécontent.
Êtes-vous un auteur célèbre ?
Ah, qu'est-ce que célèbre ? Quand peut-on dire qu'on est célèbre ? Non mais je vous pose la question. Alors on peut dire qu'on est célèbre quand on est un comédien, peut-être, ou un footballeur, peut-être parce qu'on coûte des millions. Mais j'aimerais bien avoir une définition. Qui est prêt à me proposer une définition de la célébrité ? Qu'est-ce qui fait qu'un jour on peut dire « il est célèbre » ou « je suis célèbre » ?
Que t'es connu ?
Ah non mais c'est pareil, hein. Comment peut-on dire qu'on est connu ? Être connu c'est quoi ?
Sur Internet, tu dis.
Alors, moi, j'ai fait une vidéo hier, elle est sur Facebook. Alors, je suis très connu. Hein. Bon, il parlait Alain Grousset tout à l'heure, que j'ai appelé au restaurant. On a déjeuné au restaurant. J'appelle Alain Grousset, il me dit, je t'ai vu sur Facebook, là, tu as fait une télé hier. Alors donc, je suis très connu. J'ai fait une télé hier, je ne me suis même pas vu à la télé, voilà, et je suis sur Facebook. Alors que je ne suis même pas sur Facebook, moi. Je refuse d'être sur Facebook.
Qu'est-ce que tu penses, toi? C'est quoi la célébrité?
Mais qu'on vous connaît dans tout le monde.
Ah, dans le monde entier, on connaît Christian Grenier. Ok.
Alors, je pense qu'on ne me connaît pas du tout dans le monde entier. Je pense même que parmi les pays, dans les pays où mes romans sont publiés, on ne me connaît pas. Mon nom ne dit rien à personne. Je pourrais vous citer des écrivains connus, des écrivains célèbres. Alors, il y en a que vous pourriez... Pourriez-vous d'ailleurs, vous-même, je vous pose la question, me citer un écrivain célèbre? Je préciserai vivant. Je vous écoute. J'attends des noms. Herbert George Wells. C'est une très bonne réponse, mais il est mort en 1946. Il y a un auteur dont j'attends le nom, parce que tout le monde la connaît.
Qui a écrit quoi?
Harry Potter.
Mais alors attendez, parce que est-ce que vous sauriez dire quel visage elle a?
La question que je pose maintenant et que la journaliste vient de poser, parce que souvent on me dit quelqu'un de célèbre, c'est quelqu'un qu'on reconnaît dans la rue. Or, je peux vous citer 50 noms d'écrivains vivants que vous pourriez croiser dans la rue, et je vous parie que vous ne savez pas qui c'est. D'ailleurs, Madame J.K. Rowling passerait dans la rue, à Rium, est-ce que vous l'arrêteriez en vous disant « Vous êtes Madame Rowling ?»
Non. Non.
Sauriez-vous reconnaître Madame Rowling dans la rue à Rium?
Non.
Nous sommes bien d'accord. Donc même Madame Rowling, qui est un écrivain célèbre et vivant, et richissime, parce qu'elle a écrit, elle a publié, elle a vendu beaucoup de bouquins, vous ne la reconnaîtriez pas dans la rue. La plupart des gens que je connais aujourd'hui, et qui sont des grands lecteurs, seraient incapables de reconnaître l'un des trois grands prix Nobel de littérature vivant français dans la rue. J'ai nommé Claude Simon, Le Clésio et Modiano. Ils peuvent passer dans la rue à Paris, personne ne les arrête. On était chez Gallimard, nous, il y a quelque temps encore, et on voyait passer des écrivains célèbres, ça, Solaire, c'est bon, Claude Roy, moi, quand j'étais chez Gallimard. Personne ne les arrêtait. Personne ne savait qui c'était. Et c'était les écrivains les plus célèbres en France, et les plus réputés, et les plus reconnus, même parfois dans le monde entier. On ne reconnaît pas les écrivains dans la rue. Les écrivains ne sont pas des gens célèbres, sauf quand ils sont morts et qu'ils sont dans les livres de classe. Victor Hugo, il est célèbre. Jules Verne, il est célèbre. Herbert George Wells, il est célèbre. Ben, ils sont morts. Donc, je ne suis pas célèbre.
Signez-vous des autographes dans la rue?
Je ne me souviens pas avoir signé une seule fois un autographe dans la rue. Alors, on me pose aussi la question, quand vous sortez dans la rue, est-ce qu'on vous reconnaît? Et j'ai la fierté de vous répondre, quand je sors de chez moi, tout le monde me reconnaît. Parce que j'habite dans un village de 1300 habitants et que tout le monde me connaît. Mais je pense que parmi tous les habitants du village, il y en a trois qui ont lu un de mes bouquins. Trois. Même notre voisine n'a jamais lu un seul de mes bouquins. Mon garagiste a lu plusieurs de mes bouquins. Il fait partie des gens dont je sais qu'il a lu mes bouquins. Mon garagiste. Il a lu aussi l'un de mes bouquins parce qu'il en fait partie. Bon, il est l'un des héros de mes livres. Donc il a lu le bouquin dans lequel il apparaît, bien sûr. Ah oui, oui, quelquefois, oui. Alors, notre médecin a lu aussi quelques-uns de mes bouquins. Forcément, c'est le médecin légiste de mes romans. Alors, il a lu les bouquins que j'ai écrits. Mais dans mon village, je connais, je vous dis, trois personnes qui ont dû lire mes bouquins. Et les gens me reconnaissent. D'ailleurs, souvent, on me dit, ah oui, c'est la maison de l'écrivain. Alors, je suis l'écrivain du village, mais les habitants du village ne lisent pas mes bouquins. Ça ne les intéresse pas. Mais je suis très content d'être incognito dans mon village. Je suis très tranquille, hein. Puis c'est vrai que je ne suis pas le prix Nobel de littérature. Mais je pense que même si j'étais prix Nobel de littérature, on ne m'arrêterait pas dans la rue pour que je fasse des autographes. C'est comme ça. Je pense que ni Le Clésio ni Modiano ne sont arrêtés dans la rue, même à Paris. On ne se précipite pas vers eux en leur disant « Ah, voilà, j'ai rue des boutiques obscures. Vous pouvez me le signer, s'il vous plaît ?» Même pas. « J'ai désert, monsieur Le Clésio. Vous pouvez me le signer ?» Même pas. Ça n'existe pas. Ah, par contre, Depardieu, oui, 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 non, non, mais ça, oui, oui. Mais... pas les écrivains. Non, pas les écrivains. Zidane, les footballeurs, Zidane. Oui, bien sûr. Oui. Zidane, oui, oui, Zidane, oui.
Non, Zidane.
Ronaldo.
Alors Bob Dylan, oui, mais il vient rarement à Paris. Hein.
Donc c'est pas le même genre de célébrité, vous le sentez. Mais il parlait aussi de la solitude de l'écrivain, hein, ça se tient. Et puis, à quelle occasion on a l'occasion de voir le visage d'un écrivain? Quand est-ce qu'on voit le visage d'un écrivain au final?
Sur les photos,
oui, mais
sur Internet.
Sur Internet un peu.
Quand tu viens, tu le reconnais,
quand tu viens dans ta classe, ouais.
Sur les livres. Sur les livres à la première page.
Voilà, mais ça veut dire qu'il faut déjà s'intéresser à l'auteur pour voir sa photo. Alors que c'est vrai que peut-être certaines personnes célèbres auxquelles vous pensez, ben on voit leurs images très très souvent. Ça, peut-être le nom est plus connu que le visage. On va réfléchir.
Alors je vais être très prétentieux. Dans les collèges, où que j'aille, quand je vais dans le CDI, je suis sûr de trouver un de mes bouquins. Je pense que dans tous les CDI des collèges de France, il y a mes bouquins. Je sais que je suis dans les livres de classe. C'est-à-dire qu'il y a des extraits de mes romans dans beaucoup de livres de classe. Donc, d'une certaine façon, j'existe. Et j'existe par écrit, et j'existe dans les bibliothèques. Dans toutes les bibliothèques de France, il y a forcément mes bouquins. Pas tous mes bouquins, mais il y a 1, 2, 3, 4, 10, 15 bouquins à moi. Oui, bien sûr. Les écrivains, leur objectif, c'est pas d'être connus dans la rue, c'est pas de signer des autographes, c'est pas qu'il y ait des groupies qui s'agenouillent en disant « Oui, Patrick !» C'est pas ça. Les écrivains, c'est pas des gens qui ont envie qu'on s'agenouille devant eux. Les écrivains, c'est les gens qui ont envie qu'on lise leur livre, qu'on soit ému, touché, qu'il y ait de l'émotion quand on lit leur livre. C'est ça, ce qui les intéresse. C'est pas la célébrité au sens où vous l'entendez. C'est de faire passer quelque chose qui les touche. Dans leurs écrits. Ce n'est pas leur photo, ce n'est pas leur image, ce n'est pas leur nom, ce n'est pas le fait qu'ils passent ou pas à la télé, ou qu'ils passent ou pas en interview ou à la radio. C'est qu'on les lise et que ce qu'on lit de l'écrivain provoque de l'émotion et des questions chez le lecteur. C'est ça qui est important pour l'écrivain.
Serez-vous un auteur de science-fiction incontournable dans 100 ans comme H.G. Wells ou Ray
Bradbury. Bradbury. Comment savoir si dans 100 ans, on existera encore? Je pense que certains auteurs seraient stupéfaits d'apprendre aujourd'hui qu'ils sont dans les livres de classe, qu'ils sont célèbres, qu'on les lit, qu'on les apprécie. Je pense notamment peut-être au plus grand poète français qui s'appelle Arthur Rimbaud, qui est mort il y a un certain temps, et qui serait le premier stupéfait d'apprendre qu'il est le plus grand poète français. Combien Arthur Rimbaud a-t-il vendu de livres de poésie de son vivant? Vous le savez? Je crois qu'il y en a moins de 200. Il n'a rien vendu. Il n'existait pas en tant que poète. Et il est devenu, après sa mort, le plus grand poète français.
Il en a vendu combien?
Alors aujourd'hui, des millions d'exemplaires. Mais il est mort, donc il ne touche plus le droit d'auteur. Hein. Et il est mort dans des conditions terribles. Maintenant, à contrario, c'est-à-dire à l'inverse, connaissez-vous le nom, puisque vous dites dans 100 ans, de l'écrivain le plus célèbre en France il y a 100 ans. J'entends par là, en 1917, quel était le romancier, l'écrivain, membre de l'Académie française, pas prix Nobel, qui vendait le plus de livres et qui était le plus lu en France? Connaissez-vous son nom? Moi, je le connais. Vous ne le connaissez pas. Ce n'est pas la peine de lever la main. Vous ne le trouverez pas. Même les adultes ne le connaissent pas. C'est étonnant.
Il était vivant.
Ah ben il était vivant, oui, bien sûr. Il était connu, vivant, vendu, il vendait des centaines de milliers d'exemplaires, et il était l'auteur le plus lu et le plus acheté. Et il était vivant, bien sûr, en 1917, oui. C'est Henri Bordeaux. Est-ce que vous connaissez le nom d'Henri Bordeaux?
Non.
Eh bien, il y a 100 ans, c'était l'auteur le plus célèbre en France. Ça vous donne une leçon de modestie, et Henri Bordeaux serait très humilié de savoir qu'aujourd'hui, plus personne ne connaît son nom. Lui qui était, il y a 100 ans, l'auteur le plus vendu et le plus connu en France. Donc voilà ce que c'est que la célébrité. Alors est-ce que dans 100 ans, je serai aussi célèbre que Bradbury et Wells? J'ai des doutes. Mais qui sait? Peut-être que je suis l'Arthur Rimbaud de la science-fiction. Hein. Mais là aussi, j'ai des doutes.
Y a-t-il un 13e livre de logiciel prévu?
Moi, dans ma tête, oui, il est prévu. J'ai le titre, j'ai l'histoire. Elle est complète. Je ne l'ai pas écrite. Et je ne l'ai pas écrite parce que la suite des enquêtes de logiciel ne dépend pas de moi. Elle ne dépend même pas de l'éditeur, vraiment. Elle dépend de vous. Parce que si Fatal Gaming se vend bien, s'il y a beaucoup de lecteurs au rendez-vous, l'éditeur me dira, Bon, j'aimerais bien avoir une nouvelle enquête de logiciel. Mais si l'édition s'il n'y a pas de réédition, si l'éditeur a du mal à vendre Fatal Gaming, il ne me demandera pas d'écrire une nouvelle enquête de logiciel. L'édition, c'est ça. C'est très incertain. Quand un éditeur publie un livre, il espère qu'il va être vendu. Parfois, il est stupéfait parce que le livre a beaucoup de succès et il ne s'y attendait pas. Parfois, il est très déçu parce qu'il pensait que le livre aurait beaucoup de succès et il ne se vend pas. Alors, une série, c'est un peu particulier parce que l'éditeur sait ou croit savoir que parce qu'il y a un personnage et que les livres précédents se sont beaucoup vendus, un nouveau livre avec le même personnage va beaucoup se vendre. Ce n'est pas forcé, surtout après 4 ans d'absence. Donc, il y avait un risque, mais ce risque, c'est l'éditeur qui l'a pris, c'est pas moi. Ça ne dépend pas de moi. Moi, si on me demande une nouvelle enquête de logiciel, en 3 mois, je l'ai écrite, elle est prête, l'histoire est prête. J'ai le titre, j'ai le sujet, je sais parfaitement ce qui va arriver. Mais ce n'est pas la peine que je me mette au travail si l'éditeur me dit, de toute façon, on n'a pas vendu Fatal Gaming, ça a fait un flop, ça a fait un bide, il y a du bouillon, il nous reste des milliers d'exemplaires, des invendus, c'est pas la peine d'en faire un autre. Donc je ne peux pas me mettre au travail, c'est pas la peine. Alors que j'ai des demandes et que j'ai des commandes de livres, et de sujets, on me dit, si, ça nous intéresse, on est prêt à vous signer un contrat avant même que vous écriviez le bouquin. C'est très bizarre. C'est même très vexant pour moi. Parce qu'on me fait confiance pour un texte que je n'ai pas encore écrit, alors que parfois, je suis prêt à écrire un texte et on me dit, non, il faut attendre parce qu'on ne sait pas si ça va se vendre. C'est comme ça. En même temps, et là, c'est une pression que je vous livre, mais qui ne vous intéresse peut-être pas, mais les éditeurs, eux, ce qui les intéresse, c'est de ce qu'on appelle le cœur de cible. Et le cœur de cible, aujourd'hui, ça signifie... Quel est le public qui est prêt à lire? Eh bien, ce n'est pas les 13-14 ans, c'est les 7-8 ans. Les 7-8 ans, c'est le cœur de cible aujourd'hui. Donc, si un éditeur veut vendre des livres, il faut que ce soit des livres qui soient destinés aux 7-8 ans. Moi, je n'ai pas forcément envie d'écrire des livres pour les 7-8 ans. Et mes enquêtes de logiciels, ben, ce n'est pas à 7 ans ou 8 ans qu'on les lit. Donc, l'éditeur peut aussi me dire... Ce que vous allez écrire, probablement, ne va pas être vendu, ne va pas plaire, il n'y aura pas assez d'acheteurs et de lecteurs pour ce que vous avez envie d'écrire. Par contre, si vous écrivez pour les 7-8 ans, ce n'est pas grave, même si ce n'est pas très bon, on va le publier, parce qu'il y aura des acheteurs. C'est triste, mais c'est comme ça. Le livre est devenu un produit comme les autres, et même quand c'est très mauvais, si ça plaît au public, on en vend. Et il y a des tas de choses que vous achetez, qui sont très mauvaises, et que vous achetez beaucoup... notamment dans le domaine de la nourriture. Je ne veux pas parler du McDo ou de ce genre de choses. Hein. Mais parfois, ce n'est pas du tout bon pour la santé ni pour l'intellect. Je parle des jeux vidéo et de pas mal d'autres choses. Mais ça a beaucoup de succès, ça se vend bien. Et ben, ceux qui fabriquent ces choses-là sont enchantés que ça se vende bien, même si c'est mauvais pour la santé et pour l'intelligence. C'est comme ça. Et c'est bien triste. Mais c'est vous les maîtres. C'est vous qui achetez. C'est vous qui consommez. C'est vous qui choisissez. Quand on veut qu'une série s'arrête, on arrête de lire la série et puis du coup, la série s'arrête d'elle-même. On sait que ça ne se vendra plus. C'est aussi simple que ça. Donc, ça ne dépend pas de moi.
Comment se répartissent les 7,90€ de votre dernier roman entre auteur, illustrateur, éditeur et imprimeur?
Il y a un camembert, c'est une expression, camembert, que je pourrais vous dessiner si on n'était pas à la radio, et qui vous montrerait le pourcentage. Alors, on va parler de pourcentage. Mais est-ce que vous savez ce que c'est qu'un pourcentage? Oui, un petit peu quand même.
Oui.
Alors moi, comme tous les auteurs jeunesse, je touche entre 5 et 8% du prix de vente hors taxe du livre. Faites le calcul, ça va être vite fait. Sur 7,90€, on va dire que le bouquin, il faut calculer ça sur 7,50€. Qu'est-ce que c'est que 6% de 7,50€? Ça fait à peu près 50 centimes. Il y a une chose que je peux vous dire, quand vous achetez Fatal Gaming, je reçois 50 centimes d'euros un an après. Je reçois 50 centimes d'euros un an après. Sur 7,90€, j'ai 50 centimes. Le libraire, lui, perçoit entre 33 et 40% du livre. Le libraire. Et il vit très mal, le libraire. Vous allez dire que c'est beaucoup. Ben, c'est pas assez. Parce que dans une certaine mesure, les libraires ne peuvent pas vivre en ayant un aussi gros pourcentage. Ça paraît très bizarre, mais c'est ainsi. C'est pour ça qu'Amazon fait un tabac. Parce qu'Amazon, c'est pas un libraire. Donc lui, il empoche les 40% ou les 33%, alors qu'il a des grands entrepôts, des stocks, et ça lui coûte pas cher. Le libraire, lui, il a un magasin, il a un bail, il a des employés, ça lui coûte très cher. Et Amazon vend des millions de livres, et le libraire, il en vend une dizaine, une centaine tous les jours. Et c'est pas beaucoup, parce qu'il a beaucoup de frais. Donc ça fait déjà, on arrive à 45%. Eh bien, il y a 40% pour le distributeur et le diffuseur. Alors le distributeur et le diffuseur, ce sont des gens qui soit font la promotion du livre, des commerciaux, soit surtout le distributeur, c'est celui qui transporte le livre. Les livres, une fois imprimés, sont dans des entrepôts, et dans ces entrepôts, il faut prendre les livres et aller les dispatcher dans toutes les librairies, les Cultura, les centres culturels, les FNAC et les librairies et les points de vente de livres en France. Et c'est ça qui coûte quasiment le plus cher. C'est les chauffeurs, le gasoil, les entrepôts, la location de l'entrepôt et les stocks. Les stocks de livres, il faut dire, il en reste tant, on en a reçu tant, il faut en redispatcher tant. Les livres voyagent. Ils voyagent même tellement que ça coûte moins cher de les détruire. Quand je vends un virus LIV3 ou la mort des livres, je touche 22 centimes d'euros. Et quelquefois j'en ai, et après-demain, j'en aurai des piles sur ma table. Tous ceux qui ne seront pas vendus, ils seront détruits. Tous ceux qui ne seront pas vendus seront renvoyés chez Hachette ou chez Hatier et seront détruits. Ils passeront au pilon. On en fera de la pâte à papier. Pourquoi ? Parce que ça coûte plus cher de dire « Ah, celui-là, il est là. Est-ce qu'il est en bon état ? Je regarde. Oui, il est en bon état. On le met sur cette pile. Celui-là, ah, il est en mauvais état. On le jette. Celui-là, etc. » Et il faut ensuite refaire des cartons, les compter, les stocker, prendre un ordinateur. Ça coûte plus cher que de prendre toute la pile et de dire « On les jette, on fait de la pâte à papier et on réimprime. »
En fait, il faut qu'on se... Nous, pour faire une bouteille de classe, il faut qu'on aille au Festival des livres négocier pour récupérer les cartons, c'est ça ?
Non, parce que les cartons du libraire, eux, ils les ont payés, les livres, les libraires. Et quand ils les renvoient, on les rembourse.
Ah, on les rembourse ?
Ah, on les rembourse quand ils... Ah oui, oui, les libraires ont le droit... Ils achètent les livres et ils sont remboursés 3 mois après. Parce qu'ils ont le droit de les garder pendant... Enfin, c'est un peu compliqué. Mais ils les achètent au départ. Et c'est l'éditeur, une fois qu'il les a remboursés, qui les prend et qui les détruit. Mais c'est ces allers-retours qui coûtent cher. Et ça, c'est la diffusion et la distribution. Et ça coûte cher. Le reste, bah, il ne reste pas grand-chose. Et il y a quand même une grosse part, 12-13% pour l'éditeur. Mais l'éditeur, lui, qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, il a aussi un local, il a des lecteurs, il a des correcteurs, il a des rewriters. Vous allez me dire, et l'illustrateur ? 9 fois sur 10, l'illustrateur n'a pas de pourcentage. On lui donne 100 euros, 500 euros, 1000 euros, ça dépend. Pour un dessin. Et la dernière information que j'ai pour un roman publié pour Daniel Martinigol, c'est la proposition de l'éditeur à un illustrateur. On lui a dit, voilà, vous allez faire l'illustration, on va vous donner 50 euros. 50 euros pour une illustration. Et l'illustrateur a dit, ben non, je ne peux pas faire un dessin pour 50 euros. Parce que lui, il met une semaine pour faire un dessin. Ah ben attendez, c'est pas n'importe quoi un dessin. C'est-à-dire, bon, c'est pas la Joconde, hein. Mais enfin, la Joconde, Léonard de Vinci, il a mis des années, il a mis 7, 8, 10 ans à faire la Joconde, hein. Parce qu'il revenait dessus, bon... C'est du travail de faire un dessin. Moi, j'ai un illustrateur qui s'appelle Manchu. Ben, je peux vous dire que quand je le vois au travail, c'est des heures et des heures qu'il passe sur son dessin. 50 euros, c'est le prix que me demande mon garagiste pour faire, même pas la vidange, ça me coûte plus cher. L'illustrateur, on lui dit 50 euros. Quelquefois, on lui donne 500 euros. Et là, c'est un prix, oui, parce qu'il a passé une semaine, 10 jours, à faire un dessin. Et c'est pas cher payé, parce qu'il n'est pas au pourcentage. Je connais des illustrateurs dont les livres se sont vendus grâce à la couverture, à des centaines de milliers d'exemplaires, tu vois à qui je pense, hein, et Willan, et ils ont rien reçu d'autre que leurs 500 euros de départ. C'est comme ça. Et il est malheureux, hein, mais c'est comme ça. Parce que c'est grâce à son illustration, aussi en partie, pas seulement grâce à la qualité du livre, que le livre se vend, mais lui, il n'est pas au pourcentage. On l'a payé une fois pour toutes pour son dessin. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai oublié ? J'ai rien oublié. Hein. Quand je dis l'éditeur, ce qui lui reste, l'éditeur, lui, il paye l'imprimeur, il paye le papier.
Comment ? Distributeur, diffuseur, il y a l'imprimeur dedans, quoi ?
Alors, il y a l'imprimeur, c'est... Non. L'imprimeur, c'est l'éditeur. Mais vous savez, je ne veux pas dire que l'imprimeur ne coûte pas cher, mais imprimer un livre, pas très cher. Moi, je peux me faire imprimer un livre à 1000 exemplaires, ça ne va pas me coûter très cher. Hein. Après, qu'est-ce que je vais faire de mes 1000 livres ? Ils seront en stock, dans ma chambre, dans ma gare, dans mon repos, et il faut que j'aille les donner à tous les libraires de France. C'est ça qui coûte cher. Il faut que je fasse de la publicité. Il faut que je paye quelqu'un pour qu'il aille dire au libraire, c'est un chef-d'œuvre, c'est le dernier grenier. Incroyable. Le futur Goncourt, il faut l'acheter. Vous allez voir. C'est... Et ça, je n'ai pas d'argent pour payer un commercial pour dire ça. En plus, le commercial, il va vous dire ça, mais il n'a même pas lu le bouquin. Ah oui, ben c'est comme ça. Ça, c'est toute l'opération. Et ça, c'est la diffusion, oui. C'est la diffusion. Alors parfois, comme chez Hachette, la Nouvelle Librairie Française, enfin certains grands éditeurs, ils font tout. Ils sont distributeurs et diffuseurs en même temps. Donc ils font des économies parce que ils reçoivent beaucoup d'argent et puis ils n'ont pas de diffuseurs et de... C'est eux qui font tout le travail de distribution et de diffusion. Donc là, ils ont la grosse partie du camembert, si j'ose dire.
Vous avez combien d'éditeurs en tout ?
une vingtaine, mais j'ai 3 ou 4 éditeurs principaux. Et je dirais que d'une façon générale, Hachette est mon éditeur principal. Parce que Hachette, c'est le livre de poche, et ça c'est chez Attier, c'est Hachette. C'est chez Rajo, c'est Hachette. Donc finalement, il y a très peu d'éditeurs en France, il y a des grands groupes aujourd'hui, et les groupes sont des groupes financiers, avec des actions en bourse, et avec des gens qui achètent des actions et qui veulent que leurs actions rapportent. Et l'éditeur est un peu prisonnier de ses actionnaires. Voilà ce qui se passe. C'est très compliqué, mais c'est ce qu'on appelle l'économie de marché. Aujourd'hui, le livre est devenu un produit comme les autres. C'est comme ça.
Ça prend à peu près combien de temps de faire un essai, le plus long essai ?
Il y a des dessins parfois qui prennent une heure, c'est vrai, c'est bâclé. Ou alors c'est des génies. Mais c'est rare. Hein. Comment je fais une couverture, c'est entre une semaine et un mois. C'est un mois, ça peut être un mois.
Là, ça dépend quand même quelques temps.
Alors ça, François Schmitt, oui, ça a pris beaucoup de temps. François Schmitt est un graveur. En plus, c'est pas du dessin, c'est de la gravure. C'est François Schmitt, oui.
Pourquoi des fois les couvertures, elles changent ?
Les couvertures changent.
Oui.
Parce que le livre semble démodé. Et parce que l'éditeur, pour vendre le même livre, change le look de la couverture et le livre se vend mieux. J'ai un livre qui s'appelle La guerre des poireaux, j'en ai parlé tout à l'heure. Il a 25 ans et il a changé 6 ou 7 fois de couverture. Et à chaque fois que la couverture a été relookée, il s'est beaucoup vendu. Parce que le lecteur n'achète pas le contenu du livre, il ne l'a pas lu. Mais il achète parce qu'il a envie de lire un livre grâce au look de la couverture. Donc la couverture fait vendre le livre. Le titre fait vendre le livre. On ne peut pas changer de titre, mais tu peux me passer l'ordinateur ici, s'il te plaît ? Voilà l'ordinateur. Et si j'avais sous la main la couverture précédente en cascade policier, ouais, personne ne l'a. C'était
le fantôme qui s'échappait.
Voilà, c'était à une autre couverture. Et un jour, ben c'était en l'an 2000, Xavier Descousu, Annette était là, me dit, voilà la nouvelle couverture de l'ordinateur, qu'en penses-tu ? J'ai dit, c'est une horreur absolue, c'est d'un mauvais goût épouvantable. Il m'a dit, je suis d'accord. Mais on va aller dans la classe que tu vas rencontrer, c'est une classe de 5e. On va dans la classe de 5e, ils étaient une trentaine, et Xavier montre les deux couvertures. La vieille, qui était magnifique, magnifique, elle est très belle. Et celle-là, pardonnez-moi, je la trouve hideuse, mais c'est comme ça. Hein. Et il demande aux élèves, quels sont ceux qui achèteraient, c'est le même livre, hein, faut le dire, c'est le même livre, hein, quels sont ceux qui achèteraient celui-ci ? Il y a 3 mains qui se sont levées. Celui-ci, il y a 25 mains qui se sont levées. Et bien, tu vois, sous-entendu, les jeunes ont très mauvais goût. Mais tant pis, on va faire cette couverture de mauvais goût, ça va bien se vendre. Et c'est le même livre, c'est le même livre. Vous n'achetez pas un livre pour le contenu, vous l'achetez pour le look, pour le brillant de la couverture, pour le titre, parce que c'est flashy, comme ils disent chez les commerciaux. Donc c'est très important, effectivement, de changer la couverture, et ça redonne en effet un effet de vente à vos livres. C'est bizarre, c'est comme ça. Le texte n'a pas changé d'une virgule, mais le livre se vend mieux. C'est pas juste, mais c'est comme ça.
Virus Live, la couverture a déjà changé une fois.
Virus
Live 3.
Virus et Live 3, elle a changé, mais pas trop, parce que c'est à peu près le même look toujours. Et même chez Attier, quand ils l'ont sorti, là, ça ressemble quand même encore beaucoup à la couverture de départ. Mais la couverture a changé plusieurs fois, mais c'est à peu près toujours la même. La présentation a changé, mais pas vraiment la couverture. C'est de Florence Magnin, la couverture. Et ça, c'est pas Florence Magnin. Ouais, mais la première présentation est bien meilleure, à mon avis.
Mais c'est celle qu'on a là.
Mais c'est Attier, Attier... Moi, je préfère ça
à
ça.
Il y en a un autre qui n'est pas tout à fait le même. Hein.
Oui, c'est le titre qui change, gros, c'est la couleur qui change, la grosseur. C'est en relief aussi. Quand c'est en relief, ça se vend mieux.
Pourquoi il y a assez de livres d'Internet, un peu, comme Assassinet, Mort sur le Net ?
Ah mais attends, mon enquêtrice, l'héroïne de tous mes bouquins, le policier, elle est informaticienne. Donc elle travaille forcément sur des enquêtes qui ont un lien avec les ordinateurs, avec Internet, avec les réseaux sociaux, avec Facebook, avec la mémoire morte, avec les mondes virtuels. C'est de l'informatique. Elle est informaticienne. C'est comme si tu me demandais pourquoi il y a de la biologie dans vos bouquins, alors que l'enquêtrice, elle est, je sais pas, généticienne. Bah forcément. Non, là, c'est normal.
Quand vous écrivez vos livres, votre famille peut vous aider ?
Est-ce que ma famille m'aide ? Ma famille m'aide-t-elle quand j'écris mes livres ?
J'ai beaucoup de questions. Pas du tout pour l'écriture de ses livres, mais je l'aide quand il écrit, en faisant un peu le vide autour de lui, parce que je sais qu'il aime être tout seul dans son bureau. Donc je réponds au téléphone, je reçois les gens, mais et il est tranquille. Mais par contre, c'est un gros problème, c'est que Christian ne peut écrire que s'il va bien. Si bien que je vois toujours les bonnes humeurs, j'ai quelquefois envie d'être de mauvaise humeur, mais si je suis de mauvaise humeur,
elle n'a pas le droit.
Il ne veut plus écrire.
De quoi vous êtes inspiré pour Virus Livre ?
Ce sont les bibliothécaires et les documentalistes qui n'arrêtaient pas de me demander il y a 20 ans, et il y a même 25 ans, il n'y a plus que des ordinateurs maintenant. Les jeunes, ils lisent plus. Ils se précipitent sur les jeux vidéo, sur leur smartphone, sur leur tablette. Il n'y a plus que ça. Ils désertent les bibliothèques, ils désertent les livres, ils ne lisent plus. Le livre va mourir. Et moi, je leur répondais, non, le livre ne va pas mourir. Si, si, on est sûr qu'il va mourir. C'est quand qu'il va mourir ? Je dis, attendez, vous m'embêtez, le livre ne va pas... Si, si, on sait qu'il va mourir. D'accord, ok, vous êtes obsédé par la mort des livres, je vais écrire un bouquin, ça va être la mort des livres. Bon, les bibliothécaires se sont précipités sur la mort des livres. Parce que pensaient tellement que les livres allaient mourir. Donc je savais que c'était un problème et je voulais le prendre à bras-le-corps en disant, non, le livre ne va pas mourir. Mais en même temps, j'ai appelé ce livre, je l'ai sous-titré, la mort des livres. Parce que quand on a peur de quelque chose, le meilleur moyen, c'est pas de fuir, c'est de regarder le problème en face. Et donc, j'ai voulu imaginer ce que c'était que la mort des livres, effectivement. Donc, ce sont les bibliothécaires et les utilisateurs, et ceux et celles qui avaient peur que les livres meurent, qui m'ont donné l'idée d'écrire la mort des livres.
On va remercier M. Grenier.
Jeune fille, tu veux ?
Merci. Vous saturez les micros, là.
Vous venez d'écouter la troisième partie de l'interview de Christian Grenier, réalisée dans la classe de Sandrine Dubos en octobre 2018. Retrouvez la partie 1 et 2 en podcast sur ondescourtes.fr, la web radio du libre. Cette émission a été réalisée par Alexandra Josse pour Média Commun Occitanie. Elle est placée sous licence Creative Commons, paternité, pas de modification, pas d'utilisation commerciale.